Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu de parole. Nous allons parler aujourd'hui de parole et d'exil, et je suis extrêmement touchée de votre accueil. Je vous remercie également de votre invitation, car elle me permet de partager une réflexion sur la voix de ceux qui crient, les exilés, mais surtout parce que vous me permettez d'inscrire cette réflexion dans un moment politique, de tentative de compréhension de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais vous parler des demandeurs d'asile, comme vous savez, une catégorie des migrants, comme l'a très bien rappelé Catherine Vitold de Venden, ma collègue, lors de sa dernière conférence. Elle a parlé également de migration forcée. Elle a pu brosser un panorama international de ces questions de migration. Et je vais parler plus précisément ici des réfugiés, des demandeurs d'asile, autrement dit, d'une de ces catégories, de ceux qui, s'ils sont reconnus comme légitimes par leur parole, obtiennent un titre de séjour humanitaire, ils deviennent donc des réfugiés. Sinon, ils sont des déboutés, des sans-papiers, des clandestins, des parias. Les catégories sont innombrables. Charriant chacune son lot de représentations. J'insiste sur la question des catégories, on insiste beaucoup sur ces questions en sciences humaines, parce que ces catégories d'appréhension assignent, elles objectivisent, elles réduisent aussi le sujet, elles réduisent le sujet à ce à quoi la société souhaite le réduire. Deuxième risque des catégories, elles ont un effet pervers, parce que ces classifications influencent parfois le comportement des individus, modifient les classifications en retour. Et effectivement, ces demandeurs d'asile dont je vais vous parler sont rivés à une logique de la preuve. Il leur faut répondre, il leur faut prouver. Initialement, ce sont des suspects qui deviendront peut-être des victimes et leur discours peut être tordu par le cadre même de son recueil. Je vais parler donc aujourd'hui des migrants contemporains, ceux qui ont vécu cette migration lointaine, liée à des formes de contraintes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, notamment vers la France. Et vous allez voir que je me concentre sur la question des violences qui ont une particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de violences volontaires, de violences de l'homme faites à l'homme, pas seulement de violences accidentelles. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres, et à deux jours près, j'aurais pu vous donner des chiffres beaucoup plus actualisés, puisque la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur publie, je pense, la semaine prochaine, les premiers chiffres de 2023, et les actualisera ensuite au fur et à mesure. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site actuel du ministère de l'Intérieur. Les chiffres provisoires distinguent les demandes de titres de séjour et les octrois de titres de séjour. Je vais vous parler donc d'un des quatre motifs d'admission en France aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a des titres de séjour délivrés pour les étudiants. C'est aujourd'hui le premier motif d'admission. À peu près 100 000 délivrés en 2022. Il y a les titres de séjour délivrés pour le motif familial. Là aussi, on est autour de 95 000, 100 000. Et puis viennent ensuite deux autres motifs d'octroi. C'est le motif humanitaire et le motif économique. Et là, on est autour de 50 000. J'aimerais que vous remarquiez que ce sont des petits chiffres. Alors, on est ici donc autour de la question de l'octroi de ce qu'on appelle donc les titres de séjour humanitaires. En 2022, il y a eu 131 000 demandes d'asile qui ont été formulées et il y a eu 56 000 octrois de titres de séjour pour donc ce qu'on appelle des réfugiés qui ont demandé l'asile. Parmi ces demandes, 15% des demandes proviennent de citoyens afghans qui maintenant depuis 5 ans à vrai dire. Ce sont les ressortissants donc afghans qui ont le plus sollicité l'asile en France. Ensuite, vous avez les réfugiés du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie. Ce sont les principaux pays de provenance de ces demandes. Sachez que les demandes d'asile des Russes ont bondi récemment. Vous voyez bien pourquoi. Et vous avez ensuite quelques pays qui demandent l'asile dans une deuxième rang, on va dire, en termes numériques. Ce sont les ressortissants de Guinée-Conakry, de RDC, de Côte d'Ivoire et d'Albanie. Et les autres, ceux qui n'ont pas donc obtenu de titre de séjour, puisque vous voyez qu'il y a 56 000 demandes sur ces 131 demandes qui sont donc acceptées, 131 000. Et les autres, eh bien, ils deviennent des immigrés en situation irrégulière qui partent peu. De ce point de vue-là, Catherine Vittel de Vinden vous a rappelé que à peine 12% finalement des retours étaient effectifs dans ces politiques qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Souvent le parcours personnel, quelquefois les sacrifices, les dimensions de perte, de séparation, tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver jusqu'à un territoire font que ces personnes sont là. Et il faut le prendre comme tel, il faut pouvoir leur répondre. Elles sont sur le territoire et elles n'en partiront pas. Elles sont déjà engagées dans une vie sur ce territoire. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la question des migrations en France a changé également. Les chiffres que je vous ai cités ne comprennent pas la question des ressortissants ukrainiens. Vous savez qu'ils ont, eux, bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour. C'est un titre humanitaire tout à fait particulier dont on vous a parlé la dernière fois. Sur l'année 2022, 65 000 Ukrainiens en ont bénéficié. C'est plus que le nombre de titres de séjour accordés aux réfugiés. Et ça, c'est capital, à nouveau, de le comprendre. Autrement dit, la politique française a absolument les moyens d'accueillir un type de population si elle le décide. Les moyens qui ont été mis en œuvre pour accueillir les Ukrainiens l'ont absolument montré. Je vais rentrer maintenant un peu plus précisément sur ce qui m'occupe aujourd'hui et qui est la question de la parole. Alors il y a évidemment une question politique derrière importante, politique au sens étroit, avec ces questions plus électoralistes. On est à un moment où nous attendons tous, en tout cas au niveau des équipes avec lesquelles je travaille, la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier et qui va, j'espère, changer la donne de cette loi immigration. Mais il y a aussi la politique au sens plus large, le bien commun, le vivre ensemble dans la cité et des questions qui nous concernent tous. De ce point de vue, je souhaite rappeler que la question migratoire constitue un défi sans précédent, je pense, pour la pensée contemporaine et pour l'expérience sociale commune. Elle relève à la fois donc de cette question politique, elle concerne la gestion des corps, là c'est une vision très propre à celle de Foucault, celle des corps qui fondent la conception d'une nation, un corps politique. Elle relève d'une question socio-économique, comment penser l'intégration aujourd'hui. Elle relève d'une question éthique, comment accueillir l'autre dans son altérité. La question de la migration ici n'est pas une expérience factuelle, uniquement géographique et historique. Ce n'est pas seulement la question du déplacement d'une personne d'un pays de provenance à un pays de destination. Ça, c'est la définition de l'Organisation internationale du travail que je viens de vous donner. Non, la question de la migration, c'est bien plus que ça. C'est une étape plus ou moins préparée qui engage des loyautés, des recompositions familiales, communautaires, d'individus, de groupes d'individus. C'est une expérience subjective avec des séparations, des pertes. C'est une expérience aussi subjective de liberté, parfois, de libération. C'est une expérience de vie qui va engager aussi bien les arrivants que ceux qui reçoivent. Et à toutes les étapes de la migration, jusqu'au dispositif de l'accueil en France et de l'intégration, tout est affaire de parole, de langue, de discours et de récits. Le terrain actuel des migrations est caractérisé aujourd'hui par cette violence physique, mais aussi la violence symbolique très présente dans les discours, la violence systémique, celle qui caractérise le parcours migratoire. En effet, la politique de l'accueil est fondée sur la prise en compte de la parole du demandeur d'asile. Autrement dit, vous savez que le demandeur d'asile, celui qui se présente à l'OFPRA, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui va devenir d'ailleurs un requérant lorsqu'il va se présenter éventuellement à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile, doit répondre et proposer son récit, autrement dit, est embarqué dans une expérience de parole, de langage très périlleuse, parce que c'est ce récit qui va décider de leurs droits et de leur protection. L'intégration des migrants donc, dépend de leur capacité à s'exprimer, à être compris, à comprendre aussi, et cela passe par le langage, les langues, les récits, la parole. Mais ce requérant, ce demandeur d'asile, lui-même est pris entre de multiples discours, de multiples ordres de discours, médiatiques, politiques, juridiques, académiques, psychiatriques aussi, et même sa parole intime, aux prises toujours avec une réalité de l'exil et des parcours souvent indicibles. En France, le citoyen qui s'interroge sur la réalité de l'asile est lui-même embrouillé dans une pluralité de discours très souvent contradictoires sur l'asile et l'exil, aux accents tour à tour victimaires ou sécuritaires. Cette expérience psycho-anthropologique de la migration est intimement liée donc à l'expérience de la langue, car s'y joue le sens qu'on donne à un départ, parfois une fuite, parfois une vie sauvée, parfois une vie reconstruite, très souvent la rencontre avec la mort. Qu'elle soit une migration préparée ou pas, consentie ou pas, forcée ou pas, elle produit des récits qui vont habiter les migrants, mais aussi les sociétés de transit et les sociétés d'accueil. Et c'est cette dimension-là que je souhaite ici développer. Je vais donc vous parler d'un type de voix, d'une voix, celle que j'entends dans la consultation de psychotraumatisme de l'hôpital Avicenne où j'exerce depuis une quinzaine d'années. Et je vous invite aux premières minutes de consultation de cette consultation dans ce service. Dans cette consultation, je reçois donc des dites victimes, je mets ça entre guillemets, tant la question de la victimisation est périlleuse. Donc des victimes de violences dites extrêmes. Alors ce sont, pour vous parler des patients que j'ai aujourd'hui, puisque les géographies de la guerre finalement nous envoient des personnes, ce sont donc des personnes ressortissantes du Bangladesh notamment, des Tamouls de Sri Lanka, cette guerre civile infinie, même si elle est soi-disant terminée depuis 2009. Mais se poursuit les ressortissants d'Afghanistan, de Côte d'Ivoire, de Congo-Kinshasa, de Nigeria, de Somalie, du Kenya, d'Érythrée, d'Éthiopie, mais aussi des Tchétchènes, par exemple, ou des Russes. Ils ont subi, des Ukrainiens, bien sûr, ils ont subi des violences politiques, ethniques, religieuses, parfois intrafamiliales. Ils les ont vécues dans leur pays d'origine, le long du parcours migratoire, et aussi dans le pays d'accueil, et c'est très important, la particularité des migrations aujourd'hui est que les violences se vivent non seulement dans le pays d'origine, ce sont souvent ces violences qui ont provoqué la migration, mais qu'elles se revivent le long du parcours migratoire et qu'elles vont se vivre également dans le pays d'accueil. Nous avons des personnes qui sont passées par la Libye, personne ne sort indemne d'un passage par la Libye aujourd'hui. Les hommes et les femmes qui sont reçus dans cette consultation, je reçois autant de femmes que d'hommes, présentent des symptômes parfaitement identifiables dans un service de psychiatrie qu'on regroupe sous le nom du syndrome de stress post-traumatique. Je vais revenir sur cette catégorie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette clinique, l'étymologie, c'est vraiment celui qui est auprès du lit, c'est celui qui écoute la parole du sujet. Cette clinique est ancrée dans une dimension politique aujourd'hui des migrations et de l'exil, que c'est la particularité de cette clinique, qu'on ne peut absolument pas oublier cette dimension lorsqu'on travaille avec des demandeurs d'asile. Et cette clinique tente de remettre au centre la parole d'un sujet qui n'est pas un malade, qui n'est pas une victime, qui n'est pas un indésirable, qui est d'abord un sujet qui a quelque chose à nous adresser, et c'est la particularité de cette consultation. Arrivent ces loups, Peul de Guinée, d'une quarantaine d'années. Il est orienté par les médecins de la PAS. Ce qu'on appelle la PAS, c'est la permanence d'accès aux soins que vous avez dans les grands hôpitaux et qui permet aux sans-papiers d'avoir une première consultation. Cette PAS, donc, oriente un homme qui ne dort absolument plus malgré les neuroleptiques. Et dans ses nuits, il ne s'en rend pas compte, mais il se mutile. Et lorsqu'il se réveille le matin, il ne comprend pas pourquoi il est griffé partout, pourquoi il a frappé ses mains sans s'en rendre compte, et ses coturnes, ses compagnons de chambre dans le foyer où il vivait disent, où il a dû être sorti, d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu de ce cas, il ne comprend pas, et la question qu'il va poser c'est « est-ce que je suis fou ?» Les autres me disent que je parle la nuit, que je crie, que je dis des choses, que je me griffe, que je me frappe la tête, je ne m'en souviens pas. Est-ce que je suis fou ? Et dans la folie dont il parle, il y a bien sûr les images de la violence qui le hantent, la déréalisation qui lui donne l'impression de ne pas être là. Il y a aussi tout ce que lui renvoient ses compagnons autour du stigmate culturel de la folie. Plus tard, ce sera Reza, un jeune Afghan d'Arifon, donc il parle d'Ari, qui lui a suivi les conseils d'un ami pour venir jusqu'à la consultation et qui lui va avoir cette première phrase « Aidez-moi à arrêter de penser. C'est impossible de penser avec ça. Je ne veux plus penser à tout ça. » Et puis Ezima, une jeune femme nigériane qui décide de s'exprimer en anglais. Elle ne veut plus s'exprimer en yoruba. Elle ne veut plus entendre parler dans sa langue, dans la langue dans laquelle elle a été violée. Elle ne veut plus s'entendre parler dans cette langue. Et donc elle parlera en anglais et elle dira, elle, je ne peux pas parler, vous ne me croirez pas. Et ce qui est intéressant dans ces trois premières phrases, est-ce que je suis fou ou bien... aidez-moi à arrêter de penser, ou encore vous ne me croirez pas, c'est que ces trois phrases renseignent moins sur la crédibilité de l'événement traumatique qu'ils ne renseignent sur l'expérience subjective que font ces trois personnes et qu'elles sont en train de vivre. Alors bien sûr, la psychiatrie propose sa lecture. Ces hommes, ces femmes reçus dans cette consultation présentent des symptômes parfaitement identifiables. Les symptômes les plus récurrents, ce sont la dissociation traumatique qui fait que le sujet est envahi par une angoisse, qu'il présente des capacités mémorielles très perturbées, les mêmes capacités mémorielles dont on va lui demander d'utiliser, notamment à l'OFPRA et à la CNDA, par ailleurs, pour se souvenir de son récit. Mais ce sont d'abord ces capacités cognitives et mémorielles qui sont attaquées dans un psychotrauma. Vous voyez le paradoxe. Ce sont également les reviviscences, autrement dit, des reviviscences, des flashbacks diurnes, nocturnes, qui continuellement vont ramener le sujet à l'événement violent qu'il a vécu et qui vont l'empêcher finalement d'adhérer à une forme de présence en l'envahissant par son angoisse. Le trauma, la particularité du trauma, du psychotrauma, c'est qu'il se répète continuellement et qu'il envahit finalement un quotidien. En général, les états de stress post-traumatique, comme on les appelle, sont associés à des formes de dépression en psychiatrie. Et je peux vous donner quelques chiffres. Si vous allez à nouveau sur le site du ministère de l'Intérieur, vous allez rencontrer une enquête absolument passionnante qui s'appelle l'enquête ELIPA. C'est une enquête longitudinale sur l'intégration des primo arrivants en France. Vous avez d'ailleurs beaucoup de rubriques, c'est absolument extraordinairement intéressant, il faut y aller. Et vous avez une rubrique santé mentale et vous apercevez que vous avez toute une partie des demandes des personnes, donc des primo-arrivants, comme on les appelle. Un immigré sur trois, je vous cite, arrivé depuis 2018, déclare avoir un symptôme dépressif. Et on voit dans cette enquête, ce sont des recherches, que ce symptôme dépressif est extrêmement lié avec le statut social actuel de ces personnes. Autrement dit, le déclassement initial va au fur et à mesure se lier avec une forme de dépressivité ressenti par la personne et va dégrader son état psychique. C'est intéressant parce que c'est donc dans le pays d'accueil, très souvent, que se dégrade la santé. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas seulement vrai pour la santé psychique, c'est également vrai pour la santé physique. Autrement dit, la vie dans le pays d'accueil, la rue, par exemple, abîme les personnes, bien sûr. Vous avez une enquête de l'IRDES, qui est l'Institut de recherche et de la documentation en économie de la santé, en mars 2022, qui dit que 54% des personnes interrogées qui ont accès à l'AME, l'aide médicale d'État, autrement dit, je vous parle ici de sans-papiers, 54% de ces personnes sont à avoir vécu un type d'événement traumatique. Un tiers dans leur pays d'origine, 20% au cours de la migration et 14% en France. Pour vous dire qu'il y a des violences tout au long du parcours, pas seulement dans le pays de départ. Et puis enfin le COMED, le Comité pour la santé des exilés, qui est une des très grosses associations qui s'occupe de la santé mentale des exilés, lui aussi atteste des prévalences globales de troubles psychiques graves, hein, au moins 16% de troubles psychiques graves qui exigerait en fait une consultation autour de ce symptôme de psychotrauma. Pourquoi ? Parce que ce symptôme de psychotrauma arrête totalement la personne. Elle ne peut plus vivre, elle est prise avec la violence et elle a cette charge de violence qui ne peut avancer, on va dire, ne peut être élaborée que notamment par la rencontre avec un tiers, par des possibilités de parole ou par des possibilités de soins qui lui permettent de sortir de cette violence traumatique. Je vous rappelle que deux dispositifs absolument essentiels de santé mentale sont aujourd'hui en danger, puisque dans la loi immigration, la question de l'aide médicale d'État, qui aujourd'hui concerne 380 000 personnes, et ça devrait être le double. Pourquoi ? C'est parce que accéder à cette aide médicale d'État est extrêmement compliqué, demande des démarches en présence de personnes qui n'ont pas un accès à l'information et aux langues comme elles devraient l'avoir. Autrement dit, bref, cette aide médicale d'État absolument nécessaire, pas seulement pour les sans-papiers, mais également pour des questions de santé publique. On est là sur des questions de maladies infectieuses, on est là sur un ensemble d'éléments qui nous concernent absolument tous, enfin qui concernent le bien commun. Eh bien, cette aide médicale d'État a été donc mise à mal par les propositions de loi et même si elle a été ôtée de l'actuelle proposition, va ressurgir. Hein, le Premier ministre l'a rappelé dans son dernier discours. La limiter en une aide d'urgence représente un immense danger, non seulement pour les personnes à nouveau, mais pour nous tous, et tous les soignants l'ont rappelé. Et je vous conseille très vivement de lire le projet de loi sur cette question-là. Ça se lit très vite et regardez le lexique qui est employé. C'est absolument fascinant. Il est question de clandestins, il est question de venir en France pour ces raisons-là. À nouveau, la recherche a démontré à quel point on ne venait pas pour se faire soigner en France, bien sûr, lorsqu'on est un réfugié qui a fui des violences extrêmes. L'autre dispositif qui est peut-être un peu moins connu de vous, le droit au séjour pour soins des étrangers malades, est également dans le collimateur. C'est un droit qui existe depuis la fin des années 90 et qui permet à toute personne de demander un titre de séjour pour soins pour se faire soigner lorsqu'il a une maladie grave. Il est également extrêmement attaqué par la loi actuelle, alors qu'il concerne extrêmement peu de monde. Et ce qui est tout à fait frappant dans ce droit au séjour pour soins, c'est que la question du psychotrauma, la question de la dépression, autrement dit des troubles psychiques, est considérée depuis maintenant plusieurs années, depuis la loi de 2016, puisque vous savez que les lois de l'immigration sont continuelles, depuis la loi de 2016, on voit les chiffres absolument chuter. On ne donne plus à quelqu'un un droit de rester pour le territoire lorsqu'il veut se faire soigner pour des questions psychiques, autrement dit une dépression grave, un trouble de stress post-traumatique, etc. Eh bien, la loi de 2016, sachez-le, donne le dossier d'évaluation de ces demandes à un collège qui dépend de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un collège de médecins qui dépend de l'OFI et qui ne dépend plus des agences de santé. Cela change tout et cela va tout à fait dans le sens de ce qui se passe en ce moment. La question aujourd'hui de la demande d'asile et des réfugiés dépend, comme vous le savez, du ministère de l'Intérieur. Je viens de vous parler de l'OFI, hein, ne dépend pas du ministère de la Santé. C'est tout à fait étrange. La question des réfugiés devrait dépendre de tous les ministères, naturellement, puisqu'il est question de santé, il est question de travail, bien sûr. Il est question de bien d'autres choses que seulement de la question sécuritaire lorsqu'on accueille un exilé. Donc, ces deux droits sont aujourd'hui sur la sellette. Cela dit, la lecture du psychologue que je suis, donc lorsque je travaille à l'hôpital, bien sûr, ne se préoccupe pas de ces questions. En revanche, on entend la dimension politique dans l'impossibilité pour la personne de vous parler. On se préoccupe moins d'ailleurs du traumatisme comme événement, j'ai envie de dire l'événement figurable, le viol, la torture, hein, que de la blessure. Et étymologiquement, le trauma, ça veut dire la blessure, autrement dire la marque. Cette marque qui est la marque de la violence et qui va empêcher le sujet de parler, qui va l'empêcher de penser. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'en fait, toute la clinique avec ces personnes est fondée sur la parole, cette parole qui est attaquée. Je vous dis que la rencontre est très politique. Pourquoi ? C'est parce que la question qui se pose pour le thérapeute, mais je pense qu'il se pose aussi pour tout citoyen, c'est finalement, en face d'un interlocuteur qui est empêché de parler, cette question, c'est de quelle violence, finalement, cette personne qui s'adresse à moi est-elle porteuse ? De quelle violence ? De quel type de violence ? Et je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas ici question d'un accident, il est question d'un trauma intentionnel. Il est question d'une violence qui va surprendre par sa dimension. Je parle de la violence de l'homme fait à l'homme, du mal qui rôde au sein du foyer, du voisin qui frappe, c'est l'ami qui viole, c'est l'ethnie d'à côté, je fais référence à des conflits qui ont été ultra politisés, comme ceux du Rwanda, c'est le voisin à nouveau qui va frapper, c'est une violence qui vient terrasser les défenses du sujet, ses représentations, ses cadres de référence. Et là aussi, je prends un exemple qui vient d'un grand anthropologue, Philippe Descola, qui va briser les invariants anthropologiques. Autrement dit, le rôle des parents de protéger leurs enfants, de les nourrir, les solidarités familiales, les fratries, tout ça va voler en éclats dans ce type de violence, avec des personnes qui ne sont plus soutenues par des règles sociales, des règles culturelles, et qui font face à une violence telle qu'elles rencontrent quelque chose qui s'appelle la cruauté, la violence intentionnelle de l'autre. Et donc le clinicien qui rencontre une personne déprimée, qui rencontre une personne traumatisée ou dissociée, comme on le dit, ce qu'il va voir d'abord, c'est l'explosion de ses cadres de pensée, c'est cette violence culturelle, c'est la désorientation, c'est la solitude, autrement dit, quelque chose de l'ordre du lien humain qui est brisé par cette violence, par cette cruauté. Et c'est aussi la perte d'une place dans le monde commun. Donc face à cette violence, le clinicien a un seul outil, hein, qui est la parole, triplement atteinte. Atteinte par l'irruption de la violence dans la vie quotidienne, qui a perverti donc l'ordre symbolique de la parole. On a beaucoup de personnes qui ont fui pour avoir dit un mot de trop dans un cadre, par exemple, islamiste radical, et qui donc doivent partir immédiatement. On a la violence, la parole a été atteinte au niveau du parcours par la rupture du lien social. On a beaucoup de personnes qui, à un moment, ont dû faire confiance à des passeurs lorsqu'il a fallu passer la Libye et qui se retrouvent ensuite pendant des années ou enfermés dans des camps ou devoir payer par leur corps, je pense aux femmes, la suite du passage. Et là, la parole les a trompées, elles ont fait confiance, la parole a été ruinée. Et enfin, rupture de la parole par un cadre politique qui est celui de la suspicion. Lorsqu'on le demande de prouver que ce sont des bons demandeurs d'asile, entre guillemets. Autrement dit, la violence internalisée autour de la parole ici est réactualisée. La violence donc du réel va contaminer continuellement la consultation psychothérapeutique. Et lorsqu'un homme cherche les mots pour parler de la torture ou lorsqu'une femme cherche les mots pour parler du viol, on imagine que c'est cette violence qui ressort et cette violence dans la parole notamment. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui déborde continuellement une consultation, c'est bien sûr le politique et la violence. Alors, je vous propose d'entrer un tout petit peu en consultation clinique, notamment avec Selou, cet homme qui est originaire de Guinée, d'une quarantaine d'années, qui a des traces d'automutilation qu'il ne comprend absolument pas, qui lui font très peur, puisqu'il a un imaginaire aussi de la folie qui n'est pas nécessairement le nôtre du tout, et qu'il arrive en demandant s'il est fou, ce qui le terrifie. Il faut voir que Selou rencontre continuellement sur les trottoirs de Paris des compatriotes, et il les a vus devenir fous. Précisément. Autrement dit, passer de ce déclassement initial à une forme d'écart avec le réel où ils perdent de pied. La question de sortir ou de tomber du monde commun est une question essentielle qu'on retrouve chez Freud. Sortir du monde commun, ne plus en être, ne plus en comprendre le sens. Et le premier moment, l'amorce de cette perte, c'est ce moment où ces personnes ont rencontré une cruauté inimaginable chez autrui alors qu'elles ne l'avaient jamais rencontrée auparavant. Dans leur quotidien. Et cette cruauté qui va revenir, cette impression de tomber hors du monde commun, vous la retrouvez ensuite dans beaucoup de réflexions psychanalytiques, notamment chez Nathalie Salzmann, qui a beaucoup travaillé sur le génocide, et qui va vous parler de cette terreur aussi de devenir fou et de sortir du monde commun, de ne plus le comprendre. Et c'est bien l'impression qu'a Selou lorsqu'il voit ses compatriotes dans la rue, commencer à errer, cette forme d'errance qui peut être une errance traumatique, mais qui peut être bien plus que ça aussi, l'errance de celui qui devient fou, qui a perdu les cadres spatio-temporels et qui a perdu le lien avec autrui et le cadre de la parole. Selou aujourd'hui vit à la rue lorsqu'il vient nous rencontrer. J'ai à peu près un tiers de mes patients qui vit à la rue. C'est extrêmement paradoxal et problématique de travailler avec des personnes qui vivent dans la rue parce que on se dit mais finalement la première chose dont ils ont besoin ce serait peut-être un toit, ce serait peut-être arrêter d'avoir faim. Beaucoup de patients ont faim, c'est quand même un élément à rappeler aussi. On dit qu'il n'y a plus la faim chez nous. Non, les patients ont faim, beaucoup ont faim. Et cette faim est tout à fait particulière, je vous en reparlerai tout à l'heure. Eh bien, nous pensons profondément que, autour de toutes ces questions de besoins élémentaires qui sont évidents, bien sûr, il faut un toit, bien sûr, il faut pouvoir couvrir ces personnes, les aider matériellement. Mais moi, je pense au même titre que la question de ces besoins, il y a la question de la parole et la question du lien avec ces personnes et du lien avec un tiers qui est aussi essentiel, qui est un besoin essentiel, qui a été à nouveau largement perdu. Qu'est-ce qui survit de ces loups dans le pays d'accueil en France ? Eh bien, il survit le réel de la procédure de l'asile, c'est certain, qui tout le temps lui demande des démarches, infinies, vous savez qu'elle est très complexe. Il survit la situation de précarité extrême, autrement dit, sa situation de rue, où tous les jours, il va appeler pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, le 115, sans espoir en général, peut-être de temps en temps, une fois par semaine, un toit, un endroit. Donc il survit ça du réel, c'est un réel qui ne l'accueille pas ni comme corps dans le refuge, ni comme citoyen dans la cité. Et d'ailleurs il lutte contre ce qu'on appelle la déréalisation, parce que la situation est insoutenable pour lui. Pour tenter d'approcher donc ces violences, je vais vous en parler un tout petit peu de ces loups, je vais faire vite, et je vais vous montrer qu'on est obligé de se déplacer face à ces questions d'exil et de politique pour essayer de ressaisir un lien. La première chose, c'est qu'on est en face de situations de survie. Et pour essayer de comprendre et de dépasser ces questions de survie, il va falloir pouvoir réinscrire la vie dans des situations extrêmement mortifères, où la mort est souvent inscrite. Le deuxième déplacement qui s'opère dans ces cadres thérapeutiques, c'est ce moment initial où vous avez une personne qui vient vous parler, qui veut vous parler, et ce moment-là où il y a une adresse est à prendre extrêmement au sérieux. Ce moment d'adresse, il faut pouvoir l'attester absolument, et c'est autour de cette adresse et de ce moment d'attester de la violence que peut se nouer quelque chose. Et enfin, un troisième moment important, ça va être ce passage d'une parole individuelle à quelque chose de beaucoup plus collectif. Autrement dit, si le patient peut, à un certain moment, proposer quelque chose comme « il n'est pas seul, il est aussi l'exemple pour ces loups de toute une partie des peuls de Guinée qui sont depuis des décennies envoyés dans les prisons, sont le fait d'une violence politique qui est celle de la Guinée-Conakry aujourd'hui, notamment autour des deux mandats d'Alpha Condé et depuis le renversement d'Alpha Condé en 2021, et pouvoir à ce moment-là peut-être se poursuivre cette parole dans une dimension de témoignage. Là, plusieurs de cette dimension lui permettent de sortir de sa condition d'un sujet qui a été agressé, menacé, dont la parole a été ruinée, pour pouvoir porter, disons, une autre parole plus collective et qui va le sortir du psychotrauma. Ce que disent très bien Robert Anselme et Jörg Semprin, c'est finalement que ces personnes qui ont vu la mort, qui ont vécu la mort, je vais le redire tout à l'heure, finalement, peuvent-elles encore vivre ? C'est la question qu'elles se posent et qu'ils se posent dans ceux qui ont vécu le génocide. Je viens de vous citer deux immenses témoins. Est-ce qu'ils ne sont pas condamnés finalement à être des malvivants, comme on parle de malmorts, avec cette culpabilité qu'on attribue aux survivants ? C'est une question que se posent nos patients, qui souvent ne savent pas très bien s'ils sont encore vivants. C'est une vraie question qui se pose. Lorsqu'il évoque la prison en Guinée, Selou ne veut pas d'interprète en Peul. Il pourrait en avoir un, bien sûr, dans la consultation. Il se méfie. Il dit qu'il se méfie de tout autre. Il a été trompé. Et que lorsqu'il dit ça, son regard s'éloigne. On est dans des formes de déréalisation. Il n'est pas tout à fait là. Il est en prise avec des images qui sont bien plus violentes. Robert Antel me dit « Nous sommes revenus hallucinés. » Si vous lisez ses livres. Et c'est un halluciné qui parle. Il était chauffeur de bus à Conakry. Il est marié, il a deux petits-enfants qui sont donc au pays. Et son histoire, c'est celle des Peuls de Guinée. Autrement dit, il est militant contre le régime d'Alpha Condé. À l'époque, il est inscrit à l'UFDG, le parti des militants. Et il va être arrêté dans une manifestation comme leader de son quartier, enfermé dans la prison de la sûreté, comme on appelle la prison de la santé, la prison centrale de Conakry, et il se retrouvera avec une cinquantaine de détenus dans une cellule qui est en fait pour 10 personnes, où il va être affamé et torturé pendant un mois. La fuite de prison, elle est organisée avec l'aide d'un gardien, c'est un de ses oncles qui va payer, et il y aura ce moment où le gardien lui dit « Si tu dis un mot de ce qui s'est passé, si tu reviens, si tu parles, je te tue », bien sûr, le gardien lui aussi a ses loyautés. Autrement dit, il va partir et il va effectuer ses traversées immenses, en l'occurrence lui par le Mali, l'Algérie, le Niger, le désert où il va voir ses compatriotes sortis du pick-up et laissés dans le désert, l'Algérie, le Maroc, puis l'Espagne, à nouveau des traversées, la traversée de la mer, de cette mer terrifiante qui avale, et il arrivera en Espagne. En Espagne, il ne comprend rien, c'est une langue qu'il ne comprend pas, à nouveau c'est une panique pour lui. On va lui contrôler ses empreintes, il va avoir l'impression d'une grande violence, il ne peut pas parler, et finalement, lorsqu'il rentrera en France, il entendra enfin cette langue qu'il comprend, puisque vous savez que notamment, par exemple, l'école publique est en français, enfin, le Peul parle Peul, mais il comprend aussi le français qui est présent en Guinée-Conakry, ancienne colonie, c'est là qu'il a l'impression d'une possibilité d'entente, mais pas du tout. Selou est un demandeur d'asile qui va tomber en procédure Dublin, puisqu'il est rentré par l'Espagne en Europe, et donc il va être déjà pendant 6 mois sous cette procédure, et lorsqu'il va mélanger plusieurs de ses rendez-vous à la préfecture pour pointer, eh bien on va lui dire que finalement il va devoir attendre 18 mois sous sa procédure Dublin, qui va être redoublé, triplé en temps d'attente avant de pouvoir revenir dans la procédure normale, puisque c'est l'Espagne qui est donc censée traiter son dossier et qu'il est déclaré en fuite. Il ne comprend absolument pas pourquoi il est déclaré en fuite alors qu'il a fait toutes ses démarches pour arriver en France. Il a donc perdu ses droits à l'hébergement, l'allocation d'attente, il doit patienter 18 mois, c'est sous la menace bien sûr d'être reconduit, et l'idée d'être reconduit en Espagne, c'est pour lui l'idée d'être reconduit dans le chaos. Autrement dit, cela le met dans un état de panique absolue. Pendant le premier mois avec lui, le discours de Selou est entièrement ancré sur le passé traumatique, et il dit continuellement « je ne sais pas si je suis vivant ou mort ». Il ne comprend rien, il est incapable de reparler de ce, de cette traversée. Il n'en a pas les coordonnées d'espace et de temps. Il se souvient seulement des éléments traumatiques, donc ce pick-up qui balançait les hommes dans le désert. Et finalement, le trauma va limiter toutes ses relations d'objets avec le monde. Et c'est le propre du trauma qui, finalement, mettent dans une relation narcissique, au sens psy, la personne qui est abîmée dans une solitude et qui va être coupée radicalement d'autrui parce qu'elle est prise uniquement par cette violence et que autrui devient le propre de la violence. Célou insiste beaucoup sur la rencontre directe avec la mort et sur l'enfer dont certains ne sont pas revenus. L'enfer, il l'a rencontré dans sa cellule et je le cite, « Quand il y en a un qui meurt, on le laisse mourir là devant nos yeux. » Il hallucine continuellement ses frères, comme il les appelle, qui agonisent et qui vont pourrir dans la cellule. Il faut vous dire une chose, c'est que les personnes que nous rencontrons ont la mort collée à leur corps. C'est physique et qu'il faut détacher cette mort de leur corps. Ce n'est pas seulement, je ne vous parle pas seulement de ce qui se passe dans la tête, elles ont l'impression d'avoir vécu cette mort. C'est aussi la fin de la parole. Alors pourquoi je vous dis la fin de la parole pour lui, parce que lorsqu'il était torturé régulièrement en prison, il explique que on couchait les personnes dans la prison de la Sûreté à Guinée-Conakry et qu'elles étaient frappées à coups de bottes sur le visage qu'il ne pouvait ni regarder ni voir. Il ne peut pas visualiser le visage de ses bourreaux et qu'on lui dit en même temps « Tu vas crever, de toute façon tu vas crever », je le cite. Au moment où on le frappe, on lui interdit toute parole et tout regard. Et il y a ce mot ensuite, « Si tu parles, je te tue », que lui dit le geôlier. Autrement dit, il n'a pas le droit de lever les yeux, il ne peut pas reconnaître, de même que lui n'est pas reconnu. Et il y a une forme de déshumanisation dans cette violence, tandis que les cris et les coups pleuvent. Il n'a donc pas les moyens d'empêcher cette torture, il n'a pas les moyens d'agir sur ce mal qui est à l'œuvre dans la psyché et qui le déshumanise. Je voudrais vous citer une phrase de York Semprin dans l'écriture ou la vie, autour du moment vécu de la mort. Il dit « La mort n'est pas une chose que nous aurions frôlée, côtoyée, dont nous aurions réchappé. Nous l'avons vécue. Et c'est cette vivance qui n'est pas crédible, qui n'est pas partageable, qui n'est pas compréhensible. Ces trois mots-là sont les mots de York Semprin, qu'il a vécu dans les camps. Pas crédible par autrui. Pas partageable, pas compréhensible. » Et c'est exactement ce qu'essaye de dire Célou. Alors il dit « Je vois mon corps qui tombe. » Il se, finalement, détache, il se sépare de son corps lâche. Il voit son corps qui tombe, tomber lorsque la vie lâche, de même qu'il a vu les autres tomber du pick-up, de même qu'il se voit lui-même tomber en France. Et donc, il dit cette violence. Alors, lorsqu'il arrive en France, il dit « J'ai eu l'impression de reprendre pied parce que j'ai compris ce qu'on me disait. J'ai reconnu la langue. » Il a reconnu le français. Il renoue avec une forme de parole, mais il est tout de suite accusé d'être en fuite, ce qu'il ne comprend pas. Il va d'ailleurs dire « Je ne comprends pas pourquoi je suis en fuite parce que je suis venu jusqu'ici pour demander. » qu'on m'accueille. Et puis il dira très vite, mais en fait on ne me parle pas ici, on me commande. Donc il retrouve toute la violence qui fut celle notamment de la prison et celle du parcours par les passeurs. Alors que faire ? Lorsque Célou s'assied et regarde, il dit « Je ne veux pas et je ne peux pas vivre cette vie qui n'est pas la mienne » ou alors « C'est que je suis devenu fou parce que ce n'est pas ma vie. » C'est toute son adresse, hein. Il est sidéré, il est encore dans cette violence du trauma. Et ce qu'on va proposer finalement à Célou, c'est de restaurer le corps en même temps que de restaurer finalement ce qui peut être restauré psychiquement, autrement dit séparer le vivant du mort. En l'occurrence, lorsque la mort est à ce point-là internalisée, introjectée, on va dire, il reste le corps. Et là, Robert Antel me dit une chose très belle, il écrit « Privé du corps », il parle des camps, hein, de concentration, « privé du corps des autres, privé progressivement du sien, chacun avait encore de la vie à défendre et à vouloir. » On parle beaucoup de cette phrase pour travailler avec les personnes. Il faut ramener le vivant de ces loups dans une présentification de son corps. Alors, en l'occurrence, lorsqu'il y a eu cette consultation qui a duré 2 ans et demi, nous avions une stagiaire qui était spécialiste des questions, spécialiste du yoga, spécialiste de la relaxation, et elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec ces loups, notamment pour lui refaire mettre les pieds dans un espace-temps sensible, hein, que n'a plus du tout ces loups, qui est en totale errance. Par ailleurs, il y a cette question de la faim dont je vous parlais tout à l'heure. La faim, qui est une douleur, qui lui rappelle évidemment la faim en prison. Là aussi, je voudrais vous citer une phrase de Robert Antelme, et notamment ce qu'en dit Marguerite Duras dans La douleur, lorsqu'il revient. Comme vous savez, dans son livre La douleur, Marguerite Duras se voit Antelme qui revient squelettique. Et elle a cette phrase très belle, elle dit « Il a disparu, la faim est à sa place, le vide donc est à sa place. » Et c'est exactement ce que ressent ces loups face à cette faim. Il a disparu, il est abîmé par la sensation de faim. Donc l'ancrage du corps, c'est nourrir ces loups, c'est lui trouver un toit bien sûr, c'est surtout pouvoir redonner à ce corps des coordonnées sensibles, et pouvoir sortir l'abîme d'angoisse qui le lie. On lui donne un médicament pour lui permettre de dormir. Il ne dort plus, parce que dormir, c'est ce moment de bascule dans un autre monde, et c'est bien sûr le moment de bascule vers ses cauchemars. Ça permet de reposer son corps, certes, mais transitoirement, parce que le type de sommeil que l'on donne à ce moment-là sont des sommeils sans rêve, et c'est tout à fait particulier de choisir des sommeils sans rêve. Les rêves peuvent être ensuite extrêmement importants pour pouvoir parler du trauma et des fantômes du trauma. Donc, pour survivre, finalement, il faut restaurer cette enveloppe corporelle qui agresse continuellement ses perceptions et cette impression d'être persécuté absolument continuellement. Au fur et à mesure, Célou va se sentir un petit peu mieux. Il va surinvestir bien sûr les rendez-vous, alors les rendez-vous à l'hôpital, les rendez-vous chez l'avocat, les rendez-vous chez l'assistante sociale, etc., mais qui permettent en fait de restaurer un type d'espace-temps, et c'est très important ici. Maintenant qu'il est engagé dans l'expérience corporelle d'un nouvel éprouvé, il va au fur et à mesure pouvoir être plus proche de ce qu'on appelle la question psychique, autrement dit entendre cette parole. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il a l'impression d'être tombé du monde. Autrement dit, il va falloir réinscrire la présence de ces loups ici et maintenant dans une expérience chronologique où la question de l'événement traumatique est du passé. Autrement dit, il va falloir pouvoir construire un récit et pouvoir le réinscrire dans quelque chose qui va de l'avant. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que nos patients sont dans un présent instantané qui est celui du trauma et n'ont plus aucune projection possible vers l'avenir et ont beaucoup de mal à ne pas inscrire continuellement le passé, à ne pas faire revenir continuellement le passé dans le présent. Donc, il parle du monde où il vivait bien. Et dans cette discussion avec ses loups, on s'aperçoit finalement qu'il n'a jamais reparlé à ses fils. Et là, c'est une question aussi immense qu'il faut pouvoir penser ici. Que sont ces mères séparées de leurs enfants ? Que sont ces pères, qu'on oublie beaucoup, séparés de leurs fils ? Il y a toute la question de la filiation et du coup du sens du départ qui est ici mis à mal. Donc autour de ces loups, finalement, ce dont on va beaucoup, beaucoup parler, c'est l'adresse au fils, la filiation qui a été arrêtée par la migration, alors que bien sûr, ces loups est parti avec l'idée qu'il pourrait travailler pour sa famille, qu'il pourrait renvoyer de l'argent à sa famille, mais qu'il n'a jamais pu mettre en œuvre cette possibilité depuis qu'il est parti. Et donc, il ne se sent plus du tout acteur, père, chef de famille, ce qui l'empêche finalement de s'inscrire dans une continuité d'être par rapport à sa situation en Guinée-Conakry. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est resté muet et pour lesquelles il a tant de mal à parler. Il a l'impression de ne pas pouvoir parler à son fils. Ça va être aussi un élément à ses fils. Ça va être un élément très fort de la consultation lorsqu'il va commencer à se réadresser à ses fils, notamment par téléphone, etc. Et enfin, il y a ce troisième moment qui va être la question du témoignage. Autrement dit, au fur et à mesure, le champ culturel absolument ruiné de ces loups va commencer à reprendre forme. Il y a en France le parti UFDG, auquel il appartenait en Guinée, qui existe. Il y a des compatriotes en Guinée qui ont vécu la même expérience que lui. Il y a une dimension présente également de lutte politique, au sens cette fois-ci strict, qui va faire réfléchir ces loups. Autrement dit, la question qui est les bourreaux qui t'ont empêché de parler, finalement, regarde, ici, tu peux parler. D'ici, tu peux faire des choses que jamais tu n'aurais pu faire en Guinée. Et finalement, cette question des bourreaux qui n'ont pas réussi à ôter les paroles, ce moment où Sélou est capable de se rendre compte que sa parole vaut également ici, va être un moment absolument essentiel. Alors, vous me direz, face à la question des papiers, la lutte politique de Sélou est compromise. Oui et non, parce qu'un des éléments qu'on dit le plus à nos patients, sachant qu'un tiers seulement aura les papiers, hein, c'est la moyenne actuelle, c'est qu'ils ne se réduisent pas à être des demandeurs d'asile. Ce sont des hommes, des femmes qui sont engagés dans des luttes, qui sont engagés dans des actions, qui sont engagés dans des perspectives, et que leur vie ne les réduit pas, bien sûr, à la question à une question de papier. Là, je fais référence aussi à toute la question de Mahmoud Darwish, hein, ce grand exilé qui le dit avec une force incroyable. Non, ce n'est pas seulement une question de papier, d'un bout de papier. Il y a bien plus, bien sûr. Être reconnu, être légitimé dans tout ça, dans tout son départ est immense pour ces personnes, mais la question n'est pas là. Et il est toujours absolument stupéfiant de voir des personnes qui ont attendu pendant 2 ans, 3 ans d'avoir les papiers pour que tout à coup ils aient l'impression de sable et s'aperçoivent pour certains que non, la question n'est pas là, elle est bien plus puissante que là. Que ça. Hein. La question, c'est pouvoir maintenir des liens familiaux. La question, c'est pouvoir être avec ceux qui sont restés encore, malgré la distance, malgré la séparation. Et la question, c'est toute la question de l'être politique et de sa parole qui est en jeu. Alors, je conclus sur ce que nous apprend l'expérience de Sélou. C'est finalement le redoublement du traumatisme, du trauma, dans le pays de refuge ou dans le pays de non-refuge, où sa parole n'est pas entendue. C'est lui dont la parole a été à un moment au pays méprisé, trompé, qui va devoir déployer d'autres moyens de survie pour demeurer comme sujet de langage et comme sujet de pensée. Il trouve à nouveau un espace de parole, d'abord dans cet espace de la consultation, mais ensuite il va pouvoir porter sa parole comme sujet. Alors, quelle vie reste à défendre quand un sujet a été affamé, torturé, violé, séparé, lorsque corporellement, socialement, politiquement, il est effacé? Eh bien, tout l'enjeu, c'est de le replacer dans un espace de langage, par le désir, par l'ancrage de son corps et par l'ancrage psychique et de sa parole. Le trauma psychique des personnes qui ont vécu des traumas extrêmes, ces voix qui crient, ce n'est pas du tout la marque d'un malade, ce n'est pas la marque d'un fou, ce n'est pas la marque d'un souffrant et ce n'est pas la marque d'une victime. À l'inverse, je pense profondément que la dépression, le trauma doivent être pensés comme l'expression de la partie saine du sujet qui lutte pour retrouver son ancrage dans le monde commun. Le contexte politique limite considérablement cette possibilité de retrouver un équilibre pour un sujet pensant, pour un exilé qui est à la rue détruite, pour des personnes qui sont déboutées, qui ne sont pas entendues. La moyenne, le temps passé pour cette recherche de papier est inimaginable. Pourquoi un tel déni de la capacité du sujet, hein? Eh bien, je crois que la question est plus large encore. Je crois que ces demandeurs d'asile, ces migrants aujourd'hui, ces exilés, sont détenteurs d'un savoir du réel très difficile à entendre pour nous aujourd'hui. Et je vais citer un collègue, Olivier Douville, psychanalyste également, qui dit une chose très intéressante. Pour lui, l'exclu gêne la société parce qu'il est le témoin, je le cite, insupportable de la destruction de la police, de la cité. Je le paraphrase en disant, oui, le migrant gêne la société, car il est le témoin insupportable d'une réalité non entendable, celle de la cruauté et de la violence. Il est le témoin de ce qu'un humain n'aurait pas dû voir. Il est le témoin d'une capacité du mal chez l'homme. Et en cela, l'image du déni du mal, de notre propre cécité dans une société qui n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Cela dit, reste la parole, qui ne cesse de dire la triple violence des exilés, une violence traumatique, de la rupture sociale, du politique. Et je crois qu'il y a des lieux où nous pouvons tenter de l'entendre. Je vous remercie.